Est-ce que le micro travaille ?
Travaille.
Ah, donc il faut que je sois ici, parce que j'aime bien être prêt aussi, mais... j'ai plein de choses à partager. En fait, on arrive tout droit du Pays Basque, mais en fait, avant-hier soir, on atterrissait à Biarritz, venant de Paris, en fait, de Détroit aux États-Unis, parce que nous étions les trois dernières semaines aux États-Unis pour les funérailles joyeuses de la une des grand-mères de Valérie, qui est partie auprès du Seigneur à l'âge de presque 103 ans, à une semaine près. Elle a fait 103 ans, elle aurait fait 103 ans hier, mais maintenant, dans l'éternité, l'âge ne compte plus. Si jamais vous êtes là avec nous cet après-midi, je vous montrerai une photo il y a 3 ans d'elle sur un cheval. Vrai. Donc on l'a vue l'été dernier, et même au mois de septembre, elle était plutôt en forme. Elle paraissait pas à 103 ans ou 102 ans, mais beaucoup moins. Et on remercie le Seigneur de ce que les obsèques ont été l'occasion de se souvenir de ce que Jésus a fait dans sa vie, lui accordant la grâce de marcher 74 ans avec le Seigneur Jésus. C'est formidable, hein? 74 ans. Je ne sais pas si vous avez l'ambition de marcher, l'éternité, ça c'est clair, mais ici-bas, 74 ans avec le Seigneur Jésus, c'est une bonne chose. Pour moi, il faudrait que j'arrive à 100 et quelques années aussi, ça serait un petit peu dur, je crois, surtout avec mon cancer. Mais on se réjouit d'être avec vous. Si je m'endors, réveillez-moi, parce qu'avec le décalage horaire, on a eu un petit peu de mal à démarrer ce matin. Je crois que j'ai éteint mon réveil et puis je me suis rendormi. Mais on est dans la joie d'être avec vous. On veut vous saluer de la part de toute la petite assemblée l'église baptiste d'Anglet. On n'est pas très nombreux, un petit peu moins nombreux que vous ici ce matin. Et on a soif de la présence du Seigneur, de sa sainte présence. Et on veut aussi qu'il fasse briller sur nous sa face, hein, parce qu'il est notre roi, et notamment en cette année 2017, c'est à ses pieds, c'est là que nous voulons trouver notre place, et que nous voulons être auprès de, pour reprendre le refrain que nous voulons de chanter, nous voulons trouver notre place auprès du Seigneur Jésus, même s'il est dans... invisible à nos yeux, et par les yeux de la foi, bien sûr. Alors, pas mal de choses ont été dites ce matin, notamment on a chanté sur la grâce, et ça m'a rappelé quelque chose que je voudrais partager avec vous, brièvement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet évangéliste néo-zélandais qui vit aux États-Unis, qui est un petit bonhomme, pas plus haut que ça, mais qui est bouillonnant de créativité et de... d'idées pour annoncer l'évangile. Il s'appelle Ray Comfort, en français Raymond Confort. J'ai lu un livre, je crois qu'il est traduit maintenant en français, qui existe en PDF. Quel est le titre déjà du livre? Master Plan of the... The Way of the Master. Oui, la pardon? La voie du Seigneur, ou la façon de faire du Seigneur, en quelque sorte. Et il donnait une définition de la grâce. Alors, bien sûr, la grâce est une faveur imméritée. Il y a quelque chose qui m'a touché énormément lorsqu'il a réfléchi de nombreuses années sur le sujet. Il a ajouté un petit quelque chose. La grâce est une faveur imméritée, dit-il, envers des créatures de Dieu, des hommes, des femmes, des enfants qui méritent la mort en tant que pécheurs, qui sont condamnés par les commandements de Dieu. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce petit additif, parce que par défaut, en tant que pécheurs, nous sommes condamnés à mort. Et la preuve en est qu'un jour ou l'autre, nous mourrons aussi. Mais que cette condamnation peut être levée si nous ne nous privons pas de la grâce de Dieu, si nous ouvrons notre cœur et recevons le Seigneur Jésus. Juste une pensée. Alors je voudrais vous souhaiter une bonne année. Vous êtes certainement souhaité à plusieurs reprises une bonne année, les uns et les autres. Mais du fond du cœur, je veux aussi vous souhaiter une bonne année 2017, une année bénie dans le Seigneur. Et Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose, en commençant par une question en rapport avec une situation toute simple qui, j'espère et je prie, se passera dans votre vie très vite dès le début de l'année, et aussi pour moi. Imaginez que dans les jours qui viennent, vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail, dans vos rencontres quotidiennes, hein, je ne sais pas, chez le boulanger ou en sortant d'une cafétéria ou je ne sais d'où, et puis vous sympathisez un petit peu avec cette personne, vous savez, en commencer à parler de choses et d'autres, finalement assez triviales, avec ou non l'arrière-pensée peut-être d'annoncer l'évangile à cette personne. Et cette personne manifeste un intérêt, et puis vous demande comme cela, mais est-ce que vous ne seriez pas chrétien, par hasard? Et vous voilà en train d'affirmer, je ne sais pas si c'est avec clarté, oui, ou peut-être avec hésitation. Et vous avez cette personne qui s'adresse à vous, qui vous dit « J'ai apprécié la conversation que nous avons eue. Vous me dites que vous êtes chrétien. Moi, je suis athée. Mais je suis curieux. Et je suis tolérant. Et j'aimerais vous poser une question toute simple. Puisque vous avez placé votre foi en Jésus, n'est-ce pas, hein? Dites-moi, quelles sont les deux choses les plus importantes, pas 10, ni 100, ni 1000, hein, juste les deux choses les plus importantes que Jésus a faites? Vous voilà devant un athée avec qui vous avez parlé, ne sachant pas qu'il était athée, mais en moins vous doutant que, et sachant que la majorité des gens autour de nous n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, voilà cet athée qui est finalement sympathique, qui veut bien parler avec vous, qui vous trouve sympathique et qui vous pose cette question, qui vous ouvre une porte en quelque sorte, mais limitée, hein, deux choses importantes que Jésus a faites. Et la balle est dans votre camp. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez. Mais je voudrais vous laisser y réfléchir un petit peu et vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au premier chapitre. Mais gardez en tête cette question, et je vous encourage à y réfléchir, et vous demandez, mais qu'est-ce que je dirais à cette personne, demeurant assez sympathique, qui me pose une question intelligente? Bon, il y a tellement de choses à dire sur Jésus, mais il veut me faire parler et me faire dire les deux choses les plus importantes que Jésus a faites. Pour les hommes, bien entendu. qu'est-ce que vous répondriez? Mais je vous invite pas à répondre, j'invite un petit peu à réfléchir. En fait, je voudrais ce matin, Seigneur m'a mis à cœur en rapport avec la question que je vous ai posée, de regarder quelques versets dans l'évangile de Marc et de suivre ce que j'appelle un fil rouge, comme un fil conducteur, dans l'évangile de Marc. On pourrait appeler ça aussi un survol rapide de l'évangile de Marc et donc du ministère du Seigneur Jésus ici-bas, sur terre, pendant ces 3 ans et demi de ministère parmi le peuple juif et avec ses disciples. Alors, on n'a pas le temps de lire tout l'évangile de Marc, mais j'ai choisi l'évangile de Marc pour... D'abord, une raison simple, c'est que c'est l'évangile le plus court, hein, avec ses 16 chapitres. Mais il y a une autre raison que j'espère, si j'y pense, j'aborderai à la fin. Je vous invite à regarder dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, les versets pour commencer, le verset 15, mais nous lirons le verset 14 et 15. Donc je vais vous donner, dans cette espèce de survol, ce que j'appelle donc le fil rouge de Marc, juste 5 versets. Donc le premier, Marc 1, verset 15, mais nous lirons 14 et 15. Après que Jean eut été livré, il s'agit de Jean-Baptiste bien sûr, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait, Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous avez remarqué que Jésus, il est dit, prêcher l'évangile, hein, c'est-à-dire la bonne nouvelle, hein, et c'est ce qui est écrit au verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. Jésus est allé en Galilée, et là, il n'avait pas encore ses disciples. On va voir juste après qu'est-ce qui va se passer. Il est donc parmi les Galiléens, des Juifs, et leur prêche l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. En fait, il a certainement des foules autour de lui, le contexte nous le fait savoir, et donc Jésus annonce l'évangile, prêche l'évangile aux foules. Remarquez que l'évangile, la bonne nouvelle, n'a de sens que avec la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus, qui a pris sur lui nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour, afin que quiconque croit en lui se met en règle avec Jésus, se repent de ses péchés, reconnaît que Jésus est mort sur la croix en portant ses péchés et plaçant sa confiance, sa foi en Jésus, puisse avoir la vie éternelle, puisse être sauvé. Mais à ce moment-là, les Galiléens, les Juifs qui entendaient ça, n'avaient pas connaissance de la croix, ni de la résurrection. Ça va? Vous me suivez? Si bien que, quand Jésus prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, il disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, pour nous qui sommes ici, qui avons entendu l'Évangile, qui avons eu des explications, nous qui savons que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour, pour nous, les choses sont relativement claires. Ouais, j'espère. Les Juifs de Galilée n'avaient pas cette connaissance. Ils devaient néanmoins se repentir et croire à la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer être parmi les Juifs de l'époque et peut-être certains se grattaient la tête et se disaient « Mais c'est quoi cette bonne nouvelle ?» Elle n'était pas explicite encore. Mais c'est intéressant que Jésus, ici, à la foule, annonce, prêche la bonne nouvelle, l'Évangile. Deuxième verset que je voulais mentionner, c'est le verset 17. Et nous allons lire donc versets 16 et 17. « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il, c'est-à-dire Jésus, vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et nous savons, c'est ce qu'on lit après, dans le verset suivant, que Simon, Pierre et André ont suivi aussitôt Jésus. Pendant quelques années, alors que je découvrais la parole de Dieu, j'étais abasourdi par l'obéissance instantanée de Pierre et d'André, son frère. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que, avec les autres évangiles, que on n'est pas à la première rencontre entre Jésus et Simon-Pierre et André, mais qu'il y a eu déjà quelques rencontres au préalable. Mais peu importe, Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et ils le suivent. Enfin, c'est quand même un exemple d'obéissance. En France, il y a des gens qui entendent l'Évangile, il y a des gens qui entendent l'appel de Dieu, qui est transmis, enfin, qui est apporté par des frères et sœurs en Christ. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont extrêmement rapides à l'obéissance. Mais là, nous avons un exemple qui est assez fameux. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur ce que Jésus dit. Les mots sont simples. Il n'y a pas beaucoup de verbes d'action qui sont mentionnés. Bon, je vais parler un petit peu grammaticalement, si vous me le permettez. Jésus s'adresse aux disciples, à ses disciples, Simon et André, ou si vous voulez, futurs disciples, mais enfin on est juste dans le démarrage là. Et il leur dit, suivez-moi. Je ne sais pas si grammaticalement vous avez remarqué, mais suivez-moi, en français, ça s'appelle un impératif en ce qui concerne le mode du verbe. Un impératif. C'est-à-dire, c'est un ordre. Mais vous savez comme moi que les ordres de Jésus, c'est jamais, ou c'est pas souvent cinglant, c'est des paroles qui viennent de celui qui est amour et qui sont plutôt agréables à entendre, tellement agréables que ces commandements pour nous sont souvent des suggestions, compris comme des suggestions. Alors que c'est tout de même un commandement. Donc Jésus leur dit, suivez-moi. Et eux sont censés répondre à ce commandement. Et comme nous le savons, ils obéissent et ils suivent Jésus. Et Jésus ne leur demande rien d'autre. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur ce passage, mais Jésus ne demande pas grand-chose. Il dit simplement, suivez-moi. Mais après, il rajoute quelque chose. Il dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et ce n'est pas un commandement. Et il leur annonce ce qu'il va faire. Et même pour être plus précis, il leur annonce ce qu'il va faire avec eux, ou ce qu'il va faire d'eux. Eux sont pêcheurs de Galilée, ils vont à la pêche, ils attrapent dans leur filet du poisson, peut-être ont-ils aussi des quelques lignes, je ne sais pas. Mais Jésus leur demande simplement de le suivre et il leur annonce son programme. On est au tout début, on est Marc chapitre 1er, on est au tout début du ministère du Seigneur Jésus en Galilée. Il commence à appeler ses disciples et dès le commencement, il leur dit ce qu'il va faire. Il leur annonce son programme. Alors, je ne sais pas si je vais oser vous poser la question un peu théologique. Sont-ils sauvés? Pose la question différemment. Ont-ils le Saint-Esprit? Je vais poser la question encore différemment. Ont-ils reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas si on va s'aventurer beaucoup dans cette réflexion. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à la Pentecôte, plus que 3 ans et demi après. Néanmoins, Jésus appelle ses 2 disciples pour commencer, en leur disant « Suivez-moi ». Et il annonce son programme. « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est intéressant de s'arrêter pour comprendre un petit peu ce que le Seigneur dit, parfois dans des choses simples. Remarquez avec moi que le Seigneur ne dit pas « Je vais faire de vous des gens qui vont à l'église tous les dimanches ». Il ne dit pas ça. En France, on appelle ça parfois, avec l'arrière-plan culturel ou religion culturelle de la France, des grenouilles de bénitier. Vous avez entendu cette expression, hein? Non, Jésus ne parle pas d'aller à l'église tous les dimanches. Intéressant. Il ne dit même pas, je vais faire de vous des lecteurs assidus de la Bible qui liront la Bible tous les jours. Non, il ne dit pas ça. Et il ne dit même pas, je vais faire de vous des hommes et des femmes qui vont vivre une vie de sainteté. Il n'est pas contre, hein? Mais il ne dit pas ça. Il dit simplement, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. C'est quand même étonnant, hein? Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur ce point. Jésus met l'accent là-dessus. Suivez-moi et je vais vous transformer de pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes. Pour des juifs, c'est quand même peut-être un peu étonnant. Mais je ne sais pas si ça vous surprend d'entendre ces paroles de Jésus et de s'arrêter là-dessus. Parce que Jésus aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais il ne les a pas dites. C'est ça qu'il dit. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors donc, au verset 15, nous avons vu que Jésus prêche la bonne nouvelle aux foules. Au verset 17, là, il s'adresse à ceux qui vont être ses disciples, ou qui sont déjà ses disciples, en leur disant de le suivre, en leur disant voilà ce que je vais faire de vous. Je vais passer au troisième verset que j'ai sélectionné, et je vous invite à ouvrir, enfin à tourner quelques pages en Marc chapitre 13, et on va s'arrêter au verset 10. Alors je fais un saut en avant, Marc chapitre 13, c'est loin en avant dans le ministère du Seigneur Jésus sur cette terre. On est même à la fin des 3 ans sur la terre. On est dans la dernière semaine de son ministère terrestre. Et au verset premier, nous lisons, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. C'est vrai que le temple, qu'on appelait le temple d'Hérode, et je ne sais pas si vous avez eu des photos de reproduction, de maquettes, comme en Israël, considéré comme l'une des merveilles du monde, quelque chose d'absolument extraordinaire, une grandeur et une merveille de construction. Et Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Après 3 ans et demi de ministère auprès de ses disciples, et aussi des foules, c'est des paroles qui ont dû surprendre les 12 disciples. Hein. Et verset 3 nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Et là, c'est ce discours que Jésus, ces paroles que Jésus adresse à ses disciples sur le mont des Oliviers, et il leur parle de temps difficiles, etc. Et au verset 10, le verset que j'ai sélectionné dans ce que j'ai appelé ce fil rouge de l'évangile de Marc, Jésus dit cette parole, il dit, incidemment, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Je ne sais pas si, vous imaginant être présent là, parmi les disciples, peut-être tout petit là, à écouter, entendant ces paroles de Jésus, si vous avez une question qui vous viendrait à l'esprit immédiatement, moi j'en ai une. Ce que Jésus dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. J'ai une question parce que il y a quelque chose que Jésus ne dévoile pas dans ce qu'il annonce là, à ses disciples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça commence par il faut que. Ça me fait penser un peu à cette expression un peu familière en français, yaka. Il faut que, yaka. Et Jésus dit ça. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Je ne sais pas si vous avez une question qui vous vient à l'esprit immédiatement. Je m'imagine là, avec l'envie de poser la question, mais qui va faire le travail? Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Qui va faire le travail? Par qui? Jésus parle d'une façon assez impersonnelle. En fait, il annonce le travail qui devra être fait. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut, c'est une nécessité absolue. Je reviens. Au début, on a vu que dans le chapitre 1er au verset 15, Jésus prêche l'évangile aux foules en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les curieux vont certainement chercher à savoir qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle. Parce que c'est un peu mystérieux à ce moment-là. Au verset 17, Jésus, nous avons vu, dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vais faire quelque chose avec vous. » Pas des religieux, des pêcheurs d'hommes. Et là, 3 ans après, on arrive à la fin du ministère du Seigneur Jésus, dernière semaine, on est peut-être le mardi de cette dernière semaine, et Jésus annonce qu'il y a un grand travail à faire auprès de toutes les nations, mais il ne dit pas de façon explicite qui va faire le travail. Alors je vous invite à tourner une ou deux pages au chapitre 16, et nous arrivons verset 15. On va lire à partir du verset 14. Là, nous nous situons après la crucifixion. Et même après la résurrection du Seigneur Jésus. Là, la bonne nouvelle va commencer à avoir du sens. Pour ceux qui réfléchissent. Pour ceux qui écoutent. Verset 14, « Enfin, il apparut, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Moment certainement difficile, hein? Et Jésus, avec tout l'amour qu'il a, pour nous, pour ses disciples, leur reproche néanmoins ce qui est vrai, c'est leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Ça ne passe pas sous silence. Puis il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. S'il y avait eu une ambiguïté juste avant la croix, au chapitre 13, quant à qui ferait le travail, l'ambiguïté là est levée. Il s'adresse à ses disciples et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez, vous, les disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Remarquez, il n'y a pas « sauf » ou avec l'exception de toute la création. En d'autres termes, Jésus, finalement, au terme de son ministère terrestre, donne ce que j'appellerais son ordre de mission. Remarquez que, là non plus, il ne dit pas « aller à l'église tous les dimanches ». Et il ne dit pas, lisez la Bible tous les jours, ou priez tous les jours. Et il ne dit pas, vivez une vie de sainteté, de droiture. Et il n'est pas contre, bien au contraire. Mais sa préoccupation, c'est ces créatures dans le monde qui sont perdues. Et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. C'est pas venez, c'est allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et remarquable de voir que, au tout début de son ministère terrestre, Jésus a appelé Simon, Pierre et André, puis ensuite Jacques et Jean et les autres. Et ce qu'il leur a dit, c'est ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire d'eux. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Imaginez-vous juifs à cette époque, des gens qui allaient au temple plusieurs fois par an. Et là, on a une perspective totalement différente. Un message totalement différent. Que Jésus, ici, à la fin de son ministère, avant son ascension, confirme en Marc, chapitre 16, la verset 15, et il dit, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous devez aller à la pêche hein, des hommes. Et vous devez prêcher la bonne nouvelle. En fait, Jésus a donné un peu plus d'informations. Parce que vous savez que dans un autre évangile, l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus a explicité ces choses en disant, dans les trois derniers versets, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce qui est rassurant pour les disciples, ou pour les disciples que nous sommes aussi. Et au verset 19, il dit « Allez !» Quand je vous ai dit « Faites !» je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Là, il explicite ce que ça veut dire. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une clé importante ici, où Jésus dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous savez est-ce que vous avez réfléchi à ce verset? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'a donc prescrit le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez pris la peine un jour de prendre une feuille blanche et de faire la liste de tout ce que Jésus a prescrit? Parce que, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, permettez-moi d'éviter le mot chrétien, parce qu'on met tout et n'importe quoi dans le mot chrétien, et dans les évangiles, vous ne trouverez pas le mot chrétien. Vous trouverez que le mot disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant le maître et disciple suivant, selon le commandement du Seigneur Jésus, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Jésus ici dit donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La moindre des choses, c'est d'avoir une liste de tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, pour pouvoir les enseigner. Parce que c'est un commandement. Enseignez, impératif. Enseignez-leur à observer. Observer, c'est pas regarder, c'est mettre en pratique. Enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez une liste de tout ce que Jésus a prescrit? Vous la regardez de temps en temps? Vous l'enseignez de temps en temps? Je vous avouerai que j'ai cherché à faire cette liste. Elle est longue. Et c'est un défi d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit à des personnes qui, souvent, ne veulent pas entendre l'Évangile. Mais c'est un commandement du Seigneur. Et je vais vous faire un aveu. Il y a quelques années, j'ai commencé une liste qui était très longue. Et je ne me souviens plus exactement des circonstances, mais je me suis rendu compte que dans ma liste, qui était déjà longue, il manquait un commandement du Seigneur. Le plus important. Celui-là. Allez, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. lorsque l'on va et que l'on cherche à faire des disciples et à leur enseigner tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, on cherche à leur enseigner tout ce qu'il a prescrit, y compris ce commandement de Matthieu 28, on risque de ne pas oublier grand-chose. Mais si on commence par d'autres commandements, on risque d'oublier celui-là. Et c'est ce que la plupart des chrétiens oublient. Et la plupart des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ dans des assemblées évangéliques et baptistes en France et dans le monde, y compris aux États-Unis, très peu sont occupés à aller prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile et enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit, à mettre en pratique le grand commandement du Seigneur Jésus. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là, en fait. Il nous a donné un autre commandement par l'apôtre Paul quelques années plus tard pour nous rendre plus explicite à notre compréhension ce qu'il voulait dire par « je vous ferai » ou « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et Marc chapitre 16 verset 15 nous donne une explication. Matthieu 28 verset 18 à 20 nous donne un petit peu plus. Matthieu 28 verset 18 à 20 nous montre que Jésus veut en fait que nous devenions des formateurs de disciples. Et je ne sais pas si vous avez invité Jésus à transformer votre vie pour que vous deveniez ces pêcheurs d'hommes et en fait ces formateurs de disciples. En 2 Timothée chapitre 2, au verset 2, il a utilisé l'apôtre Paul qui parle à Timothée, mais qui nous parle à nous, lecteurs de la parole de Dieu aujourd'hui, en disant « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ?» Paul parle à Timothée. Il lui dit « Confie-le à des hommes fidèles, c'est un troisième niveau, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, quatrième niveau. » Paul a enseigné Timothée en lui disant « Enseigne à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Parce que la pensée du Seigneur, c'est que des pêcheurs d'hommes doivent être en fait des formateurs des disciples, et plus exactement des formateurs de disciples qui vont se reproduire, qui vont se multiplier. Et en Marc chapitre 16, le dernier verset que je voulais signaler, c'est le verset 20, le dernier verset de l'évangile de Marc. Je vais lire le verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous avez vu? Le Seigneur travaillait avec eux, certes, et juste avant il est écrit, ils s'en allèrent prêcher partout, conformément au commandement du Seigneur Jésus. En d'autres termes, les disciples ont obéi. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le livre des Actes est un témoignage absolument extraordinaire du travail qu'ils ont fait sur plusieurs décennies. Un démarrage absolument merveilleux, extraordinaire, de l'évangélisation, la formation de disciples, des premières églises de l'histoire de la chrétienté. Je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais je vous encourage à méditer ces quelques versets. Donc ce que j'ai appelé le fil rouge de l'évangile de Marc, où dès le début de son ministère terrestre, Jésus annonce à ses disciples, ou à ceux qui vont très vite devenir ses disciples, je vais suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est ça qu'il visait. Puis ensuite,
il explicite ces choses, de façon à ce qu'ils comprennent. Et bien entendu, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, les choses se sont éclairées, elles ont pris du sens. Alors, au début de ce message, je vous ai posé une question, vous invitant à imaginer cette situation que je vous souhaite arriver dès demain dans votre vie quotidienne, où quelqu'un vient à vous et puis par sympathie, même si cette personne n'est pas d'accord avec vous, se disant athée, vous pose donc la question, mais dites-moi, mais juste en des mots concis, pas trop longuement, les deux choses les plus importantes que Jésus a faites. Je ne sais pas qu'est-ce que vous diriez. J'ai beaucoup réfléchi pendant mes 20 et quelques années là depuis que je connais le Seigneur. Et je dirais, je vais vous, pas vous imposer, mais vous soumettre à la réflexion ma pensée sur le sujet. Parce que j'ai souvent ce genre de questions, mais souvent je devance les choses et j'essaie de dire ces choses, notamment aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, pour susciter leur intérêt, leur curiosité. Et souvent ces choses, ils ne les connaissent pas. Les deux choses que Jésus a fait pour ces créatures, moi je dirais que la première, c'est qu'il est venu et il est mort sur la croix et il est ressuscité le troisième jour afin que toute créature puisse, en se repentant de ses péchés comme Jésus l'a prêché, et en croyant à la bonne nouvelle, puisse être sauvée. Ça c'est pour que toute créature, quelle qu'elle soit, sans aucune limite, puisse avoir accès au salut, au pardon de ses péchés. Je crois que c'est la chose la plus importante que Jésus a faite, et qui est sans laquelle nous sommes tous perdus, et seul lui, comme ça a été dit tout à l'heure, pendant la présidence, seul lui pouvait faire. Et alors, la deuxième chose que la plus importante que Jésus a faite, je ne sais pas si vous avez déjà quelques convictions dans votre cœur, quelques idées, si vous avez réfléchi à la chose, j'aurais envie de vous laisser encore une heure pour réfléchir et vous dire, bon, on en parlera cet après-midi, mais je ne peux pas. Il faut que je vous donne quand même quelque chose pour terminer ce message. Personnellement, je dirais que la deuxième chose la plus importante que Jésus a faite, à la lumière de ce que nous avons vu précédemment dans l'évangile de Marc, dans ce fil rouge de l'évangile de Marc, c'est que Jésus a formé 11 disciples. Et il a formé 11 disciples capables de se reproduire. Il leur avait dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et ensuite il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris ce grand commandement d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, Jésus n'a pas formé 100 disciples, ni 1000, ni 1 million. Il aurait pu. Il n'en a formé que 11, enfin 12 moins 1, 11. C'est quand même étonnant, hein? Seulement 11. Pour toucher le monde entier. Je ne sais pas si ça vous a jamais étonné. Vous savez, le Seigneur a dit à Gédéon, ton armée est trop grande. Hein? Et là, il a choisi 11 disciples. Enfin, 12, mais moins 1. Et c'est suffisant. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté pour vous poser la question, mais pourquoi était-ce suffisant d'avoir 11 disciples? Moi, je crois que c'est la chose la plus importante que Jésus a faite. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles, ou si vous vous mettez à la place de l'un des 12 disciples, qu'est-ce que vous auriez fait pendant 3 ans et demi? Suivre Jésus, l'entendre prêcher, lui poser des questions, entendre ses réponses, être de temps en temps repris, à cause des stupidités qu'on dirait, comme les disciples ont pu dire, être envoyé par le Seigneur Jésus vers la fin des 3 ans, revenir et rendre compte à Jésus, être corrigé un petit peu dans les choses ou éclairé dans les choses qu'on a pu faire et dire, etc. Et en fait, les disciples ne sont jamais allés à l'église. Ils ont passé du temps avec Jésus sur le terrain à annoncer la parole de Dieu, soit à l'entendre au début, soit à le faire eux-mêmes, envoyés par le Seigneur Jésus. En fait, le Seigneur Jésus les a préparés pendant 3 ans et demi, progressivement, à faire ce qu'à la fin il leur a demandé de faire. Et ce qu'au début il avait dit qu'il ferait d'eux, des pécheurs d'hommes. Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il choisi que 11 disciples? Dans son humanité, il a choisi que 11 disciples. Je ne sais pas si vous êtes arrêté là-dessus, mais je voudrais vous dire que c'est parce que le commandement de Jésus de Matthieu 28, 18 à 20, est extrêmement puissant, est divinement puissant, à une condition, qui est oubliée de la plupart des chrétiens, ou inconnu de la plupart des chrétiens, et même oublié de la part des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner une illustration de ça. Et j'aurai une feuille que je pourrai vous distribuer pour vous encourager à méditer sur ces choses dans cette année 2017. Jésus a formé 12 disciples, moins Judas 11, disons. Et c'était suffisant à ses yeux. Supposons que parmi nous, aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui, par la grâce du Seigneur Jésus, se mettant au service du Seigneur Jésus, décide dans son cœur de chercher à faire non pas 12 disciples, mais 3 disciples, tous les 3 ans. Jésus a fait en 3 ans, il nous laisse son modèle dans son humanité, il a formé 12 disciples, ils ont 11 disciples, en 3 ans, 3 ans et demi. Supposons que l'un d'entre nous décide dans son cœur, s'engage avec le Seigneur, prend le Seigneur à témoin, Seigneur, je veux, avec ta grâce, pour le reste de ma vie, faire 3 disciples tous les 3 ans. Pas être plus royaliste que le roi. Le roi a fait 12 disciples, moi 3. Ça veut dire que au bout de 6 ans, ça fera 3 plus 3, 6. Au bout de 9 ans, ça fera 3 plus 3 plus 3, 9. Et ainsi de suite. Ben, au bout de 30 ans, ayant une vie chrétienne bien remplie, ça ferait que 30 disciples. Pas grand-chose. Cependant, si dès les 3 premières années, vous cherchez, comme Jésus l'a fait, à former 3 disciples en leur enseignant à devenir des pêcheurs d'hommes, à devenir des formateurs de disciples, en leur disant, il va falloir que ta vie chrétienne soit au service du Seigneur pour former d'autres personnes. Si vous faites cela, vos 3 disciples vont faire de même. Ils vont faire tous les 3 ans 3 disciples. Ce qui va faire beaucoup de disciples en plus. Lentement, mais de plus en plus. J'ai un petit tableau qui fait un petit calcul ici. S'il y a des matheux, vous pourrez refaire les calculs. Mais vous verrez que en bout de 30 ans, la personne qui est ici, qui aura décidé, et par la grâce du Seigneur, qui aura continué à faire 3 disciples tous les 3 ans, grosso modo, hein, et qui aura donc fait en 30 ans simplement 30 disciples, mais les aura formés à se reproduire, cette personne, elle aura été au point de départ de environ 700 000 disciples formés par elle et par ses propres disciples. Parce que elle et ses propres disciples auront formé au total, en 30 ans, plus de 700 000 disciples. Vous pourrez faire le calcul. En d'autres termes, s'il y avait dans le monde 1000 personnes, 1000 disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui, comme celui ou celle parmi nous qui prend l'engagement devant le Seigneur Jésus, par ta grâce, je veux faire ce que tu as fait. Je veux faire ce que Paul a fait, à savoir annoncer l'évangile et chercher à former des formateurs de disciples qui vont se reproduire eux-mêmes. S'il y en avait 1000, en 33 ans, le nombre de disciples formés capables de se reproduire serait, je suis content que vous soyez assis, 4 milliards de personnes. La moitié de la population du monde. En 33 ans, à raison de 3 disciples par personne tous les 3 ans. Ça, c'est la puissance du commandement de Jésus. La puissance divine du grand commandement de Jésus de Matthieu 28, versets 18 à 20. Et cette puissance, elle n'est visible qu'à une seule condition, parce qu'il y a une condition. C'est que les disciples du Seigneur Jésus, ou ceux qui prétendent l'être, se reproduisent. Si un disciple ne se reproduit pas, il n'y a aucune puissance dans ces versets de Matthieu 28, 18 à 20. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obéissance. Jésus, dans son ministère terrestre, a fait des choses extrêmement simples. Il a passé son temps à former les disciples. La croix et la résurrection, c'était la dernière semaine, le dernier jour. Ou les 3 derniers jours, disons. Mais l'essentiel de son occupation, c'était de former des disciples qui soient capables de se reproduire. Alors j'ai un défi pour vous en 2017, et une question, un défi c'est de dire, Seigneur, c'est ça que je veux, c'est ça que tu commandes à tes disciples, et c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux mettre en pratique avec ton aide. Et la question que je pourrais vous poser d'ores et déjà, c'est, et que je me pose, Jésus a dit à ses disciples, dès le départ de son ministère terrestre, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est son intention, c'est son désir en d'autres termes. L'avez-vous invité à faire cela dans vos vies? Avez-vous laissé Jésus transformer vos vies pour devenir des pêcheurs d'hommes, et même plus, pour devenir des formateurs de disciples, et même plus pour devenir des formateurs de disciples qui se reproduisent. Si ça n'est pas le cas, moi je vous encourage aujourd'hui, solennellement, à vous engager dans le secret de votre cœur, et à dire, Seigneur, c'est ce que tu as fait. C'est ce que Paul a fait. Qui a révolutionné l'Empire romain en quelques décennies. Et aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, nous avons des moyens financiers, des capacités qu'il n'y avait pas au premier siècle. Au premier siècle, il y avait une obéissance qu'il n'y a pas toujours aujourd'hui. Le défi que le Seigneur nous donne en cette année, mais pour le reste de notre vie, c'est de le laisser nous utiliser pour prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile. Chose pas facile, mais chose encore moins facile, former des disciples capables de se reproduire. C'est le défi que je veux vous laisser. Et je veux vous laisser cette feuille que j'ai intitulée « La puissance de la formation de disciples capables de se reproduire ». Que le Seigneur vous bénisse.